liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire.
2 de l'April.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Avec Luc et Manu.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de boutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'April, semaine 17, année 2012. Salut Manu.
Salut Luc, content de te revoir.
Et les vacances, c'est bien. Qu'est-ce qu'on a au sommaire?
Alors au sommaire, on a une petite revue de presse, 8 articles. On va parler de politique, hein, forcément. On va parler de licences, d'entreprises et de sécurité, de logiciels de vote et brevets logiciels, parce que c'est quand même un vieux sujet. Et il y a besoin de le ramener régulièrement, les brevets logiciels, il n'y a rien de tel.
C'est Stallman, hein, mondialisation.ca. Stallman, la loi CISPA abolit presque le droit de ne pas être légalement inquiété de manière irraisonnable.
C'est un article de RT. Donc c'est une traduction d'un site anglais qui doit s'appeler Résistance 71. Donc qui parle d'une nouvelle loi incompréhensible. En tout cas, moi, je connais pas grand-chose.
C'est pas une loi de chez nous, hein, c'est une loi américaine, manifestement, qui, de ce qu'on en comprend, permet à un intermédiaire technique quelconque, de type fournisseur d'accès ou hébergeur, etc., de filer toutes vos données au gouvernement s'il a un doute, en disant que vous faites peut-être en train de faire des trucs louches.
Donc à l'origine, il semblerait que c'était pas du tout autorisé. Il y a des lois aux États-Unis qui évitent cela. Et donc là, ils ont mis en place un nouveau système. Alors au nom du terrorisme, hein, bien sûr, et peut-être aussi de la pédophilie, il n'y a rien de tel. Pour éviter les deux, ils permettent aux entreprises d'envoyer des données dans ces cas de doute. Mais comme on le sait, quand il y a un doute, il n'y en aura pas. Ils vont les envoyer à chaque coup. Et donc vraisemblablement, ça veut dire que les États-Unis vont se constituer des bases de données sur leurs citoyens. Phénoménal.
Obama avait pris position disant que si ce truc passait au niveau des parlements, il mettrait son veto. L'article l'évoque et Stallman dit que pas trop Obama qui fait pas confiance, mais qu'en tout cas il apprécierait qu'effectivement il tienne parole là-dessus. Article suivant, OVNI, la licence globalement morte OPS, un article de Guillaume Ledy.
Alors, la licence globale, rapide rappel, il s'agit simplement d'un mécanisme où vous payez une fois pour toutes chaque année, sous forme d'une taxe, hein, façon loin, hein, et ensuite vous avez le droit d'accéder comme vous le voulez à tous les éléments de la culture, de les partager, et il n'y a plus de question de piratage puisque vous êtes autorisé à cela par la loi et par cette taxe.
La cagnotte ainsi constituée est répartie en fonction des téléchargements, oui, ou des critères.
Il y avait des critères qui avaient été réfléchis, mais le problème, c'est que vraisemblablement, ça se fera pas de toute façon. Il semblerait que l'équipe de Hollande et Hollande lui-même soient un petit peu compliqués.
Voilà, on revient un petit peu plus en tête à cette affaire dont on a parlé plusieurs fois. On avait notamment remonté cette fameuse lettre, moi, qui m'avait vraiment beaucoup marqué, venant d'un lobbyiste. L'article est très bien fait parce qu'il revient dans le détail. On explique notamment qu'OPS, il y a eu une prise de bec entre Aurélie Filippetti, qui était en charge des questions culturelles, et Fleur Pellerin, qu'on a évoqué plusieurs fois dans cette revue de presse, qui était en charge de l'économie numérique. Et leur terrain de bataille aurait dû être Adopi. Et finalement, ça s'est pas tellement fait. On sait ce que dit l'article, que Hollande a clairement dit qu'il n'y aurait rien de tout ça et qu'on allait rester dans les systèmes actuels par rapport à tout ce qui était culture, financement, de la création, etc. Donc on peut s'attendre, après l'élection, quel que soit le résultat, à pas de changement de ce côté-là et encore du n'importe quoi.
Alors peut-être un petit peu de changement, il sera peut-être un petit peu moins sur la répression, un petit peu moins dans les effets de manche. Là, depuis telle qu'elle est là, il va peut-être la bonifier un peu, mais l'esprit va pas bouger. Moi, je parie sur le fait que simplement, il y a des lobbies culturels, des entreprises qui sont derrière, qui poussent. Et Hollande, il va certainement pas bouger cela, pas dans l'immédiat, clairement.
Voilà. En tout cas, c'est une des choses intéressantes, hein, dites par l'article, c'est que sur ces sujets-là, finalement, c'est la voix des lobbies qui porte. Et qu'en gros, il n'y a rien de bien construit, et qu'on sait qu'Hollande avait un petit peu tergiversé entre les deux, qu'a priori, Aurélie Filippetti était plutôt favorable à un système alternatif et trouver d'autres solutions, mais qu'en gros, on a un non-sujet, puisqu'en fait, voilà, c'est juste refléter ce que les lobbies demandent. Donc voilà, un article assez éclairant sur le sujet. Agoravox, argument pour la mise en place du libre, donc un article de Mathus. Alors c'est très tourné sur l'écologie, puisqu'en fait, Mathus, donc c'est pas un journaliste, c'est un développeur informatique, et il va chercher des arguments du côté de l'écologie en expliquant qu'on peut faire tourner des vieilles machines avec des logiciels libres, qui n'est pas le cas avec les logiciels propriétaires, et on sait que la construction d'un ordinateur, ça bouffe énormément d'énergie et de ressources. On a eu des calculs qui disaient qu'un ordinateur portable, il faudrait le faire tourner 6 ans sans jamais l'éteindre, pour égaler la quantité d'énergie nécessaire pour le construire. Donc faire durer un ordinateur plutôt que de l'éteindre régulièrement, faire durer un ordinateur, c'est finalement un gain énergétique et environnemental considérable. Après ça, il y a d'autres trucs, quand on voit les prises de gueule et les rapports de pouvoir, on se dit que c'est peut-être un petit peu naïf, mais qu'on peut accéder à, par exemple à de la musique sous licence libre et se passer de la SACEM.
Il évoque aussi le Framabook et tout ce qui va avec, donc voilà, il y a tout un monde
un livre qui s'appelle Un monde sans copyright, une présentation de toutes les alternatives existantes.
Donc c'est un pot pourri, hein. on peut remonter là-dessus. Donc si vous avez besoin d'arguments à droite et à gauche, ça peut pas faire de mal, c'est bien dans un éventail. Hein.
Tout à fait. Le journal du dimanche, c'est ça ?
Le JDD.fr, ça doit être ça, hein, ça doit être le journal de dimanche.
Programme numérique des candidats UMP-PS, un catalogue de mesures sans vision globale, un article de Gaspard Delem. Donc on retrouve un peu l'argument qu'il y avait tout à l'heure sur la question de la licence globale, c'est qu'effectivement, toute la partie numérique, c'est vraiment pas convaincant, ça n'a pas vraiment été un sujet de campagne. Alors, c'est une interview du représentant d'un think tank qui s'appelle Renaissance Numérique, dans lequel on trouve des gens très fréquentables comme Jean-Pierre Archimbaud, et sinon pour l'essentiel des entrepreneurs d'Internet et du numérique. Donc il fait cette constatation en la détaillant un petit peu plus, que voilà, l'UMP comme le PS en fait répondent aux sollicitations des lobbies, et que du coup on n'a pas de politique, il n'y a pas de vision.
Je trouve qu'il tape même assez fort, hein. Il y va et il dit voilà, il n'y a pas eu dans cette campagne vraiment de discussion sur ce qu'on nommerait le numérique éventuellement, et il tape bien, il explique, voilà, les lobbies ont probablement réussi de leur côté, dans leur coin, à faire des choses, mais clairement, le PS, l'UMP sont sur des lignes assez semblables. Il n'y a pas eu beaucoup de changements, si ce n'est peut-être un qu'il évoque à la fin.
Oui, alors c'est le point négatif d'interview, où il dit qu'à droite, on est pour le logiciel payant, et à gauche, pour le logiciel libre gratuit. Donc il y a petit amalgame logiciel libre, logiciel gratuit qui fait toujours un peu mal. Peut-être que son propos est de dire que justement ils n'ont rien compris et qu'eux se fixent là-dessus alors que c'est pas la problématique.
Il n'a pas fondamentalement tort. Sarkozy a régulièrement utilisé comme argument voilà, qu'il y avait des grosses entreprises qui faisaient du logiciel et que c'était important de les aider, notamment bah, une entreprise comme SAP, hein, allemande. On voit assez bien comment son cœur balance, qui n'est pas du même côté que le nôtre, hein, il faut avouer. Petite remarque aussi, le JDD, c'est la première fois qu'ils sont dans la revue de presse, donc c'est toujours sympa de voir des nouveaux articles et des journalistes.
Voilà. Surtout que celui-là a vraiment l'avantage d'être vraiment dans l'analyse, et ça c'est bien, ça sort des trucs purement factuels qu'on a très souvent.
On va en attendre d'autres, hein. On espère bien.
Alors, l'usine nouvelle, concilier logiciel libre exigences de sécurité par Laurent Archimbaud. Alors Manu, tu as des actions à l'usine nouvelle, c'est ça ?
C'est ça, parce que c'est un article payant et il se trouve que je l'ai chopé par un moteur de recherche qui, lui, a des liens qui vont bien. Donc en passant par là, on ouvre une première fois, ça passe et je l'ai mis dans la revue de presse, je l'ai lu, tout ça. Effectivement, maintenant, on ne découvre qu'un petit extrait sur...
Alors moi, je ne l'ai pas lu. J'ai même pas lu l'extrait parce que j'étais vexé. Donc qu'est-ce que c'est ? De quoi ça parle ? Alors,
c'est toujours utile parce que l'usine nouvelle, c'est quand même un magazine qui est diffusé dans pas mal d'entreprises. Donc c'est assez pertinent de voir, voilà, c'est quelque chose avec pas mal d'impact. Et là, c'est un argument qui est très intéressant, c'est de dire, dans le monde des avions, de l'aviation, il y a besoin de logiciels, et ces logiciels, il est bien mieux qu'ils soient libres pour des questions de sécurité, des questions de pérennité. Donc là, c'est bien mis en avant, c'est bien explicité, et c'est vrai que c'est assez éclairant d'imaginer, voilà, vous avez un avion qui doit durer très longtemps, c'est le moins qu'on puisse dire.
Hein. Effectivement, quand on passe à l'informatique d'il y a 15 ans,
on a mal.
Voilà, c'est compliqué. ITExpresso.fr, brevet Eric Schmidt témoigne dans le procès Google contre Oracle, un article de Jacques Franck de Ferrière.
Donc Oracle, Google, c'est Oracle qui a racheté Sun, qui a des droits sur un petit truc qui s'appelle Java, c'est pas un petit truc du tout, c'est un truc énorme, et ils ont demandé des milliards de dollars parce que Google utilise quelque chose qui ressemble énormément à Java.
Voilà, alors c'est la troisième semaine d'affilée qu'on en parle, hein, de ce truc-là, donc là ça fait vraiment le règlement de compte dans les cours de récréation, c'est pas moi qui ai commencé tout ça, et donc là en fait toutes les grosses têtes de Google et d'Oracle viennent témoigner, et là la position de Google est de dire qu'en fait ils ont entièrement recodé les API qu'on leur reproche d'utiliser justement pour ne pas tomber là-dedans, et qu'à l'époque de Sun ils les avaient approchés pour justement que le truc soit libre et tout ça, qu'ils n'avaient pas réussi à s'entendre, Sun voulant garder le truc propriétaire, et que donc ils avaient tout réécrit. Je ne sais pas si c'est prouvable.
Non, ça fait partie de ces choses, mais ce qui est amusant aussi, c'est que finalement Sun l'a bien libéré, hein, mais ça n'a pas empêché à Google de refaire son implémentation. Et là, en gros, ce qu'il dit, c'est qu'ils ont effectivement réutiliser des API, qui sont en gros des interfaces, qui sont en gros juste des nommages. Je nomme une fonction avec un certain nom, je nomme une classe avec un certain nom, ce qui permet d'être un peu compatible entre les deux mondes, celui de Google et celui de Sun, donc maintenant Oracle. Et donc ils ont recopié ces nommages, et c'est tout, mais ils n'ont pas dupliqué, ils n'ont pas copié les noms. Ce qui est amusant, c'est un truc de gamin.
Animal Actu, comment les élections auraient pu régler une partie de la dette d'Arles, par Paul Ferrier.
Donc on parle encore politique, élections notamment, mais pas sous le même aspect, loin de là, plutôt sous l'aspect logiciel et organisation des élections par les collectivités, les communes. Ben là, dans ce cas-là, c'est la ville d'Arles.
Qui, suite à une affaire douloureuse avec un fournisseur de logiciels de gestion d'élections, a décidé de développer son propre logiciel, l'a mis sous licence libre, et partagé avec d'autres communes, 700 communes en France l'utilisent.
Donc c'est une gestion de A à Z des élections, comme l'explique bien l'article. Donc il faut aller jeter un œil à cet article, justement, c'est assez pertinent de voir les collectivités. Elles ont un intérêt majeur à se débarrasser du blocage d'un logiciel propriétaire. Il est question là d'argent. Il est question d'argent sur beaucoup d'endroits, beaucoup de lieux, et pas juste de contrôle et d'évolution et de facilité d'évolution. Et de se rendre compte qu'une ville comme Arles peut faire des choses qui bougent, qui évoluent énormément et qui dépassent simplement le côté « j'ai un petit logiciel, je le paye à un fournisseur, à un prestataire ». Non, non. La ville elle-même peut développer et peut développer de manière forte et utile puisque ça a été repris un peu partout. La conclusion même, je vais un peu vite, hein, on peut en parler encore, c'est carrément de parler d'une approche qui a été faite par des gens de l'ONU et de pays africains qui expliquent, voilà, c'est une participation à l'installation de la démocratie là-bas. Donc c'est une soi-disant rémunération qui suffit au développeur principal qui est là cité abondamment.
Parce que l'article est vraiment un axe sur la question du payant en disant mais ils auraient pu se faire plein d'argent en vendant le logiciel. C'est vraiment un raisonnement assez simpliste. Et donc évidemment, c'est des logiciels, il y en a d'autres, hein, qui intéressent les pays africains où ils ont très peu de ressources.
Je rajouterai petit détail, hein, ça fait du bien de penser que des administrations et des collectivités développent du logiciel sous licence libre, parce que développer et ensuite ne pas le fournir au reste de la population, c'est un peu rageant, parce que c'est finalement payé par l'État, par les collectivités, par les citoyens. Silicone.fr, open source, la licence GNU/GPL reste la plus utilisée, de David Feuget. Donc c'est le dernier article qui reparle la vieille marotte du libre, hein, c'est la GPL. C'est pas le carburant.
On a évoqué ça il y a au moins 6 mois, en constatant qu'elle est en perte de vitesse. Ça reste toujours majoritaire, mais qu'il y a d'autres licences, notamment des licences, donc là c'est pas dit par l'article, mais notamment des licences non copyleft, Apache ou BSD, etc.,
qui ont
le vent en poupe. Donc là ça donne les chiffres à jour, sachant qu'on est aujourd'hui à 57% des projets qui sont sous licence GNU/GPL.
Oui, c'est ça qui est amusant finalement, c'est que oui, il y a une perte de vitesse qui n'est que relative. Le nombre de projets sous GPL augmente beaucoup, mais relativement parlant, les autres licences gagnent du terrain dans cette augmentation, mais ça n'empêche, la licence GPL est de loin la plus utilisée. Donc elle diminue relativement dans cette époque de croissance.
C'est allié, on l'a vu, hein, que toutes les très grosses boîtes qui ont investi le terrain depuis 2 ans à peu près favorisent les licences non copyleft. C'est juste une mise à jour là-dessus, rien de nouveau sous le soleil.
Bon, on reparlera du copyleft une autre fois, hein, c'est un bon concept, mais il me demande une bonne explication. Peut-être qu'ils l'expliqueront à la radio.
Oui. Allez, salut.
Salut, à la semaine prochaine.
C'était la revue de presse de l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'April, proposée par Luc Fievet et Manuel Charpentier. La revue de presse de l'April, c'est aussi dans Divergence Numérique, tous les jeudis à 12h30 et 17h30.